On va parler du bio parce que nous sommes dans une exploitation bio, de l'élevage, de la culture de légumes en plein champ, vente à la ferme ici de légumes bio de l'exploitation et des productions d'à côté. Il y a un gros débat sur le bio parce que voilà, on voudrait que tout le monde mange bio, on voit que c'est pas complètement facile. Quelle est votre philosophie du bio, vous Karine, qui nous recevez ici et qui exploitez les agneaux et ces beaux légumes de plein champ?
Pour moi, la bio, c'est le cercle vertueux de l'autonomie, c'est l'autonomie et c'est l'autonomie au niveau agronomique. C'est-à-dire, idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est d'avoir de l'élevage et d'avoir une rotation la plus longue possible pour que le sol ne se fatigue pas trop. Et ne pas utiliser de pesticides et de produits chimiques.
On le voit ici, il y a un pont entre les cultures et l'élevage. Hein. Vous avez plus de 100 hectares. Et effectivement, vous faites du blé, vous faites de la luzerne qui va permettre de
l'orge.
Nourrir, de l'orge.
Voilà, on fait du triticale, on fait des métailles aussi pour nourrir les animaux directement, des mélanges de pois et d'orge. On fait des couverts aussi avec de la luzerne sous couvert de céréales.
On protège le sol.
Exactement.
Couvert végétal, exactement. Alors ça, c'est le vrai bio, hein, le bio à taille humaine, le bio paysan. C'est quoi le faux bio, Édouard Bergeon, alors?
Le faux bio, pour nous, Français, ça peut être le bio qui vient de pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Il faut juste savoir qu'en France, on a les normes bio les plus strictes du monde. Donc, du bio polonais ou indien ou chinois qui n'est pas soumis aux mêmes normes, il est vendu comme bio, mais il est vendu comme une marque bio. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut défendre le local, territorial, français.
D'abord.
Et puis, si c'est bio, c'est mieux, forcément.
Bien sûr.
Mais faut faire vraiment attention à tout ça.
Et attention, quand on va acheter, par exemple, des épinards bio qui viennent d'Égypte, les critères et le cahier des charges du bio dans ces pays n'est pas du tout le même que chez nous. On va même autoriser certains phytosanitaires dans la culture de ces produits.
Exactement. Hein. Et puis après, des produits sont mélangés, par exemple, comme le miel. On va trouver un miel bio, mais avec un mélange de miel chinois.
Un bon sirop de glucose. Hein.
Exactement.
C'est bien, ça, on aime bien.
Donc, il faut faire attention à ne pas se méprendre, même si, bonne nouvelle, le bio, depuis 5 ans, en France, les surfaces ont doublé.
Oui, alors attention à ça aussi. C'est vrai que parfois, il y a des exploitations qui sont gigantesques et qui reprennent les codes, on va dire, de l'agriculture conventionnelle intensive et qui produisent du bio. Moi, je connais des paysans qui se sont lancés dans des exploitations bio à taille humaine et voyant le développement, en rachetant des surfaces, en s'endettant avec le matériel, donc les mêmes problématiques que le conventionnel, ils se retrouvent à faire du bio, mais sans vraiment de sens parfois.
Oui, après, je pense qu'il y a un vrai problème après économique derrière tout ça, mais je pense quand même que la démarche, la volonté générale, ou peut-être pas générale, parce que c'est peut-être que ça reste encore qu'une minorité, même si ça a doublé en l'espace d'un an, voilà, c'est quand même d'aller dans le sens du bio. Parce que quoi qu'on dise, quand même, ce sera toujours meilleur que de manger des produits qui viennent de produits industriels. Quoi.
Les surfaces bio en France représentent 8,5%, on va dire, des terres. On a un objectif de 15% d'ici 2022. Ici, à la ferme, Karine, vous êtes la preuve qu'on peut être grand ensemble en restant artisanal. Et pour ça, vous avez créé une coopérative. Racontez-nous.
Ouais, exactement, comme disait un cousin récemment. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
C'est ça.
Et donc il y a 7 ans, on a créé cette coopérative, la coopérative bio d'Île-de-France, qui rassemble aujourd'hui 75 producteurs franciliens bio, et nous vendons nos productions pour moitié à la restauration collective. Pour les restaurants d'entreprise, notamment pour les cantines scolaires.
Juste à côté, circuit court, pas de transport délirant non plus. Hein.
Exactement, c'est du direct. Et l'autre moitié pour les magasins spécialisés, dont Biocoop évidemment fait partie depuis le début et qui est un gros.
Et les restaurants, quand ils sont ouverts, eh bien, se fournissent chez vous aussi. Hein.
Exactement. On a aussi dans notre coopérative de nouveaux clients qui sont des petites enseignes indépendantes ou même on commence à avoir des restaurateurs qui s'intéressent à s'approvisionner en 100%. Bio local.
Alors du bio c'est bien, mais en conclusion, du bio c'est formidable, on est d'accord, mais le local c'est idéal aussi, on pourrait dire, Édouard Bergeon.
Bien sûr, et c'est là qu'il faut être acteur, être consommateur, regarder les étiquettes et faire la démarche de venir dans ce magasin fermier, dans cette ferme, ou au moins, tout au moins, de regarder les étiquettes d'où ça vient. Comment c'est produit.
Comme disait Jean-Pierre Coff, ne soyons pas consommateurs, devenons consommateurs. Voilà, ben on revient dans un instant pour regarder la télé, figurez-vous. Pas n'importe laquelle, cultivons-nous.tv, une chaîne consacrée à l'agriculture, lancée par un certain Édouard Bergeon. A tout de suite. Europe.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Nous voilà avec la bande, nous sommes toujours à la ferme de Châtenois en Seine-et-Marne. On fait salon chez Karine et Simon Thierry, ici dans leur ferme bio, une belle exploitation où on élève des agneaux. On est dans le magasin, donc c'est pour ça que vous entendez un petit peu d'animation. Vous voyez, les gens viennent faire leurs courses. On est samedi matin, vente directe à la ferme avec Ophélie Lehmann à mes côtés et Yves Candebord et Édouard Bergeon. Alors Édouard, vous le réalisateur paysan, il y a un an, on vous avait invité pour le lancement d'une chaîne de vidéos à la demande, cultivons-nous.tv. Il y a question d'une culture qui nous concerne tous, l'agriculture. Hein. Racontez-nous cette belle chaîne.
L'agriculture et l'alimentation, l'environnement, parce qu'en fait, tout est lié. Je pense que depuis des décennies, on a voulu tout séparer. Et en fait, tout coexiste et tout doit vivre ensemble. Donc j'ai créé une plateforme après mon film, après Au nom de la Terre. On a eu un superbe succès de 2 millions d'entrées.
On en parlera tout à l'heure d'Au nom de la Terre parce que régions qui sont allées plus le voir que d'autres.
Exactement, mais fort de ce succès, je me suis dit, mais comment on continue, comment on prolonge et comment je peux créer une boîte à outils que je remplis de documentaires qui racontent toutes les formes d'agriculture, de l'industriel à l'agriculture bobo, bio, écolo.
C'est vrai, mais dans cette chaîne, sur cultivons-nous.tv, vous allez du champ à l'assiette. Hein. Vous couvrez vraiment...
Il y a des portraits de grands chefs cuisiniers.
Tous les domaines.
On raconte les circuits de distribution, on raconte le vin, on raconte la mer, on raconte l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. C'est important qu'on puisse venir piocher dans cette boîte à outils, qu'on ait 7 ans ou 77 ans et qu'on soit urbain ou ruraux.
Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, il y a des formats assez différents. Donc, on peut très bien.
Il n'y a pas
se
de format.
Dire, on va passer une soirée. On peut choisir un documentaire pour passer toute la soirée, comme un documentaire plus court pour une pause déjeuner. C'est vraiment, il y a des vidéos, on a vraiment le choix pour les regarder.
Il n'y a pas de format parce qu'il y a un côté circuit court dans cette chaîne. C'est comme ça que je l'ai voulu. Par les réseaux, certains m'alertent, m'envoient des documentaires qu'ils ont eux-mêmes tournés, avec un propos qui est génial, qu'on ne verrait pas sur des chaînes classiques. Je le regarde, ça rentre dans ma ligne éditoriale. On signe un contrat, hop, on le met en ligne. Et on les rémunère, parce que c'est important aussi de créer de la valeur.
Il y a un documentaire qui cartonne en ce moment, justement, sur votre chaîne, c'est Le Temps des Arbres. C'est vrai qu'on revient à la découverte de la sylviculture en ce moment. Hein.
Et bien là, on est en Seine-et-Marne et je suis arrivé au début, je me suis dit, oh là là là, il n'y a pas de haies. Pendant plusieurs kilomètres,
c'est
là, on
vrai.
Est dans des grandes plaines céréalières. Et ça mériterait que des arbres soient plantés. L'arbre est un créateur d'eau, d'air, et il protège les cultures du vent. Et là, je me suis dit, oh, dis donc, on arrive dans une zone où on les a arrachés, parce qu'il y en avait, parce qu'on est dans un bocage, en fait, là où on est, dans cette jolie ferme. Et on est allé les replanter chez moi, sur les terres où j'ai grandi, où avec mon père, on les a arrachés il y a 25 ans, parce que c'était plus pratique, parce qu'il fallait que ça soit...
Parce qu'il fallait de la place pour les machines.
Ouais, aussi, on gagnait quelques mètres de terre, quelques bouts d'hectares. Et puis, avec Guillaume Canet, qui est parrain de Cultivons-nous TV, chaîne avec qui on a monté ça, avec Antoine Robin, mon associé, on est allé replanter ces arbres et avec les scolaires, avec des enfants de l'école où était mon père. Et là, c'est magique.
Et ça, on le voit effectivement sur votre chaîne. Et parmi les nouveaux abonnés, ça coûte 5 euros par mois, il y a un certain Yves Candebord aussi.
Oui, je suis abonné. Hein. Je suis abonné. Et c'est vrai que donc j'ai vu le documentaire avec les enfants, c'est très émouvant. C'est vraiment très émouvant parce qu'on se rend compte que les enfants ont une sensibilité et aussi ils ont pris ça à cœur. Ils se sont sentis investis d'une tâche.
Ouais, mais ces enfants plantent pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Quand on plante un chêne, il va grandir pendant presque 300 ans et il va rester encore 300 ans derrière.
Il y a un documentaire formidable qui s'appelle Les Dépossédés aussi, qui revient sur la précarité du monde paysan, mais dans le monde entier. Et j'ai en tête comme ça le souvenir de paysans indiens qui faisaient de la vanille et qui se retrouvent dépossédés du jour au lendemain parce que le cours de la vanille a complètement chuté, s'est effondré, s'est passé de 100 dollars à 1 dollar. Donc ils sont endettés et ils sont complètement dans la misère.
C'est important pour moi de raconter sur Cultivons-nous justement toutes les agricultures et tous ces petits agriculteurs qui font une agriculture vivrière, qui à un moment donné sont conduits dans une production ou une autre, et d'un coup sont dépossédés de leurs terres, de leurs richesses, parce qu'on les expulse, parce qu'on les paie pas, parce que la monoculture est arrivée. C'est un documentaire de 3 heures, vous voyez, c'est entre un essai de cinéma, c'est magnifique, il y a eu un tour de monde qui a été fait, c'est très beau, et en même temps c'est très dur, et...
Mais c'est la réalité aussi, c'est la réalité du monde paysan dans le monde, effectivement, avec des écarts entre les grands et les petits.
Oubliez que le monde est rural, hein.
Et il y a un entretien aussi avec le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui vous a consacré une heure et demie et qui vous a parlé, qui parle de sa formation d'ingénieur agronome, parce que je trouve que c'est un ministre de l'Agriculture assez discret. On ne l'entend pas beaucoup quand même,
Julien de Normandie. Assez discret, mais je crois qu'il est dans l'action et il est aimé des agriculteurs. Ça fait longtemps qu'un ministre n'a pas été autant aimé des agriculteurs, parce qu'il est agro justement, parce qu'il connaît le job.
Et le précédent, Didier Guillaume, était apprécié aussi parce qu'il a fait des belles initiatives aussi quand même, notamment sur l'interdiction des serres chauffées pour l'appellation bio.
Sûr, c'est lui qui a... La loi Egalim, mais bon...
la loi Egalim, on n'est pas au bout. Oui. Il y a encore du boulot.
Qui n'est pas respecté, mais oui, c'est important, ces grands temps longs, ces grands entretiens d'une heure, une heure et demie. Là, je viens d'en faire un avec Anne-Cécile Suzanne, une formidable agricultrice, éleveuse, qui a fait Sciences Po et Harvard, mais qui a dû reprendre la ferme parce que son parent est décédé. Elle fait des vaches incroyables et elle a une vraie vision.
Ça s'appelle cultivons-nous.tv. Alors tiens, nous sommes à la ferme bio ici à Châtenois en Seine-et-Marne. On élève des agneaux, on vous l'a dit dès le début. Eh bien, Marion est avec Kevin Frias qui se fournit ici à la ferme, qui est un restaurateur de Nemours et qui nous cuisine l'agneau. C'est de la selle, hein, Kevin, c'est bien ça qu'on va manger.
Tout à fait. On vient de commencer à mettre en cuisson.
Ah, j'entends les braises qui chauffent. Je vous vois, voilà. Là, vous êtes juste à côté. Nous, on est dans le magasin paysan et vous êtes dans la cour de la ferme, vous, avec un joli barbecue. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec cette selle d'agneau? Elle ne va pas être simplement grillée.
Alors, on l'a marinée du coup avec l'ail des ours. On a fait une huile qu'on va venir remettre dessus par la suite. On a fait un gratin dauphinois sur le côté.
Ah oui, je le sens, vous le cuisinez à côté de nous, là. Il cuit à côté de nous le gratin.
Voilà, donc le gratin dauphinois avec les pommes de terre de Karine.
Là, on est 100% local, hein, pour le coup.
100% local.
Ça, c'est beau, ça. Bah, merci, Kevin. On va déguster ça tout à l'heure avec vous. Ne bougez pas, nous sommes ensemble donc jusqu'à midi et demi. Vous avez remarqué, le printemps pointe le bout de son nez. Eh bien, comme les premiers radis, eux aussi, ils pointent le bout de leur nez. Eh bien, Yves Candebord en croque justement pour ce premier légume primeur. Sortez le beurre, on revient juste après ça.